Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Rémi Fraisse est mort à l'âge de 21 ans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Ce jour-là, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la zone humide du Testet, dans le nord-ouest du Tarn, contre le projet du barrage de Sivens sur le cours du Tescou, un affluent du Tarn. Le rassemblement a commencé dans le calme, puis s'est transformé dans la soirée en affrontement entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Cette nuit, plusieurs centaines de grenades sont tirées, des grenades lacrymogènes de tout type, des grenades assourdissantes, mais aussi des grenades offensives nommées OFF1, dont l'une tue le jeune homme. Ce soir-là, d'après Mediapart, qui fournira par la suite une enquête approfondie, la préfecture aurait donné des consignes, je cite, « d'extrême fermeté ». Selon le dossier d'enquête, l'officier aurait en outre commis une faute en jetant la grenade en l'air au lieu de la jeter au sol, comme le réclame la procédure. Mais dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur ne fait que constater le décès sans en donner la cause. L'avocat de la famille de Rémi Fraisse dépose rapidement deux plaintes, l'une pour homicide volontaire et l'autre pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une commission d'enquête parlementaire est également chargée de faire la lumière sur la mort de Rémi, qui émeut et révolte les Français. Empêtré dans ses dénégations, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonce la suspension de ce type de grenade. Le projet de barrage est également arrêté. 37 ans plus tôt, le 31 juillet 1977, les capacités mortelles des grenades OFF1 avaient déjà été constatées avec la mort de Vital Michalon, un jeune homme de 31 ans, lors d'une manifestation contre la construction du surgénérateur Superphénix, peut-être vous en souvenez-vous, à la centrale nucléaire de Cresse-Malville, dans l'Isère. Les circonstances sont très similaires. Rémi Fraisse est botaniste, Vital Michalon est physicien. Tous deux ne sont que de passage sur les zones à défendre. Ils ne font pas partie des groupes les plus radicaux, des militants les plus organisés et connus des services de police. Les autorités font preuve d'une maladresse, si ce n'est d'une grossièreté comparable, au moment d'annoncer leur mort à leurs proches. La plainte de la famille de Vital se solde par un non-lieu et il y a fort à craindre que celle de la famille de Rémi connaissent le même sort. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, pour ouvrir une séquence de toute notre chaîne intitulée « L'esprit rebelle », ce sont deux proches des victimes, la mère de Rémi et le frère de Vital, qui racontent d'un siècle à l'autre deux morts sous les coups des forces de police. Reportage signé Olivier Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Voilà, c'est là que Rémi Fraisse est mort.
Il y a plein de petites fleurs posées, des roses.
Et autour, c'est des palais de grenades lacrymo.
Et donc ces petits galets qui sont là par dizaines, ouais, ils ont été placés là pour former une sorte de, on peut dire, de petite stèle au milieu de laquelle il y a des fleurs, il y a une bougie.
Sur cet endroit, il y avait aussi un lieu qui s'appelait le fort. Donc c'était deux belles cabanes en bois qui étaient construites, qui ont été détruites.
Ben, Rémi, c'est quelqu'un qui aimait la vie et qui était apprécié de tous les gens qu'il rencontrait. C'est quelqu'un de partage et qui respectait les gens et la nature dont il était proche. Je m'appelle Véronique, je suis la maman de Rémi Fraisse. Et contrairement à ce que disent encore certains journalistes, Rémi n'était pas un sadiste. Il avait des projets. Hein. Il partait fin novembre en Argentine. Et après, en janvier, il devait rejoindre une exploitation agricole en Ariège pour parallèlement s'inscrire en septembre dans une école de plantes médicinales dans les Pyrénées. Je n'avais jamais entendu parler de Sivens. J'avais entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, mais Sivens, non. Et lui, ça s'est décidé la veille. La veille, ils ont rencontré des copains sur Toulouse, Et c'est un copain qui leur a dit qu'il avait envie d'y aller. C'était un rassemblement festif où on allait pouvoir discuter sur l'environnement, qu'il y avait possibilité de construire des cabanes dans les arbres, enfin, a priori un rassemblement agréable. Donc elle est partie avec sa copine et un couple d'amis. Ils sont passés ici à 14h, quelque chose comme ça. Il vient récupérer un blouson et un duvet. Il retourne voir une copine parce qu'il lui avait proposé de venir. Elle lui a dit non, qu'elle n'avait pas trop envie, qu'elle avait peur. Et c'est là qu'il lui a dit, mais de toute façon, il n'y a pas de force de l'ordre. Il y a cet arrêté préfectoral qui a été posé. Et donc, je sais qu'après, ils partent avec un couple d'amis, donc en direction de Sivens. Je lui ai dit de faire attention au cas où. Et il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, de toute façon, tu sais comment je suis, il n'y a pas de souci, quoi. Le lendemain matin, j'ai quelqu'un qui m'appelle en me demandant si je savais où était mon fils. Donc là, j'ai un moment de panique, j'essaie de rappeler Rémi, et en fait, je retombe sur cette personne qui me dit « j'ai son portable ». C'était le capitaine Moutard. On voulait savoir si on savait où était Rémi, avec qui il était. Voilà, on nous a dit qu'il y avait eu un mouvement de foule au départ, et qu'effectivement, on avait retrouvé son portable par terre. On nous dit « qu'est-ce qu'il faisait là-bas ?» Et on nous dit, mais il était avec les casseurs. Alors on a dit, mais nous, Rémi, il était pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'était pas un casseur, donc de toute façon, c'était pas un violent, c'était pas un casseur, donc non, il y a un problème, quoi, c'est pas normal. Donc, arrivé à la gendarmerie, je leur ai de suite demandé s'ils avaient un mort, parce qu'en fait, la façon dont ils posaient leurs questions, je me disais, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Et donc, il nous a menés en bateau pendant des heures en nous disant « Est-ce que vous pouvez le décrire? Est-ce que vous pouvez dire ci? Est-ce que vous pouvez dire ça ?» Donc on a dit « Mais attendez, si vous nous posez toutes ces questions, il y a bien quelque chose, quoi. » Et donc là, il nous a demandé si on avait une photo. Et bah, bien sûr que non, on n'avait pas de photo de lui sur nous. Donc il a fallu qu'on vienne avec un photomaton parce que je n'avais pas autre chose à porter de main. Et donc lui avait quand même sur son téléphone le corps de Rémi. Et il prenait la photo, il vérifiait avec le portable en disant « Oh, il a plus de barbe, on ne reconnaît pas bien. » Alors je dis « Mais montrez-moi. » « Oh non, 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 non. » Ils ont décrit un jean, ils ont décrit des chaussures, il n'y avait aucun signe qui permettait de savoir que c'était lui. Et d'un seul coup, je me suis souvenu d'une chemise qu'il avait, qui était originale. Il avait une chemise à fleurs, blanche et grise. Et donc, ils ont dit, on ne sait pas, on va appeler. Donc, on nous a encore fait poireauter pas mal de temps pour finalement nous dire, oui, c'était cette chemise-là, quoi. Donc, c'est bien lui. Et en fait, dès qu'on est rentré à la maison, on a vu sa photo s'afficher sur la télé. Et nous avons d'ailleurs appris les résultats de l'autopsie à la télé. Personne n'a eu la décence d'appeler les parents. Il y a eu une marche blanche, je n'ai pas pu y aller. C'était un peu compliqué. Je suis allée beaucoup plus tard, effectivement, sur les lieux. Je n'ai trouvé que des gens bienveillants, des gens complètement effondrés, qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé, qui n'étaient pas forcément là pour en découdre avec la police. Des gens choqués. Donc j'y suis même retournée plusieurs fois, revoir peut-être certaines personnes que j'avais trouvées... qui me rattachaient peut-être à mon fils pour essayer de comprendre, eux, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce que c'était une ZAD, qu'est-ce que c'était un ZADiste. En fait, c'était des mots qui ne résonnaient pas pour moi, quoi. Je ne connaissais pas ces termes. Donc j'ai eu besoin de comprendre. J'ai découvert des jeunes et des moins jeunes qui sont là pour défendre un terrain, pour défendre la nature par rapport à des projets qui sont mis en place dans l'illégalité. Donc effectivement, il y a des gens qui sont comme vous et moi, qui travaillent et qui s'opposent à ce projet, et puis il y a des gens qui s'investissent de rester sur le terrain pour dire on va essayer de fonctionner différemment, de vivre différemment, de partager des terres. Je dis pas c'est bien, c'est mal, je dis juste ce ne sont pas des violents. Ce ne sont pas des violents. Nous avons eu le retour de la commission rogatoire. Celle-ci est à la décharge pour la gendarmerie, alors que l'examen de son contenu fait apparaître beaucoup d'éléments autant contre la gendarmerie que contre sa hiérarchie. Nous, on a compris tout de suite quand même que c'était les gendarmes qui l'avaient tué. Nous, on savait très bien qu'il n'avait pas un cocktail Molotov dans son sac, on savait très bien qu'il avait un sac à dos comme tous les gens qui vont quelque part à l'heure actuelle en vacances et qui prennent un sac pour mettre une bouteille et un pull. Donc nous, on savait très bien que de toute façon, rien ne provenait de lui et qu'effectivement, il avait forcément été tué par des forces de l'ordre. Après, on ne savait pas dans quelle situation. Mais il y a eu à partir de là toute une stratégie pour le faire passer pour un casseur et pour justifier de cette mort. Moi, je ne peux pas y rester assise sur mon canapé en attendant qu'on clôt le dossier. C'est pas possible. Mon fils s'est fait éclater. Il y a plein d'infractions dans ce dossier depuis le début. Je ne vais pas attendre qu'ils nous disent qu'il y a un non-lieu. À un moment donné, il faut avancer, il faut essayer de trouver des solutions. Voilà. Et oui, j'ai envie finalement d'aller vers des gens qui ont des valeurs qui étaient les miennes, à part que moi je les avais sur mon canapé. Quand vous voyez un jour sur deux votre fils en grand écran sur la télé, quand vous voyez certaines personnes dire n'importe quoi et certains journalistes faire des émissions en présentant Rémi Fraisse, le zadiste, quand vous voyez certains acteurs de cinéma se permettre de dire que le film qu'il joue est cohérent et fort comme une grenade offensive dans la tête de Rémi Fraisse, ouais, c'est difficile de... Je pense que le deuil fait partie d'une période de calme, où on se ressource, on se reconcentre sur soi, sur sa peine. Là, c'est un petit peu difficile. Rémi n'est toujours ni enterré ni incinéré. Nous voulions faire une crémation. La crémation nous a été interdite, donc nous attendons d'avoir l'autorisation. Il attend dans une boîte, dans un HLM de cercueil. Parce qu'il peut y avoir des expertises supplémentaires, il peut... Voilà. Je me disais que pour arriver à faire le deuil de cet enfant que nous avons tant aimé et dont son nom est utilisé par tout le monde, pour tout, pour rien, il allait falloir finalement faire le deuil de ce prénom et de ce nom qui ne nous appartiennent plus et qui nous fait souffrir à chaque fois qu'il est mal utilisé.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Yves François, je suis agriculteur à Crémépieux, j'ai 59 ans. Alors, Crémépieux, c'est une commune qui est située complètement au bord du Rhône, dans le nord du département de l'Isère. Et c'est la commune qui donc supporte Superphénix. Alors moi, je suis ici, en fait, on est la troisième génération. C'est mon grand-père qui a acheté la ferme en 1929, donc ça commence à faire un petit moment. Et effectivement, j'ai suivi depuis le début les événements vis-à-vis de Superphénix. Alors fin 73 ou 74, on était une quinzaine sur le futur site de la centrale. On a pris des piquets qui figuraient les emplacements de la future installation. Je me rappelle, il y avait un piquet qui c'était marqué « Centre réacteur numéro 3 ». Et nous, ce qu'on avait fait, on avait fait un feu de camp avec les piquets en bois. Voilà, c'était l'essentiel de la manifestation. Puis petit à petit, les choses se sont intensifiées. Il y a eu des manifs en 75, 76, 77, quoi. En 75, c'était de l'autre côté du Rhône, juste en face. Il y avait à peu près 250 à 300 personnes, d'après mes souvenirs. Et puis en 76, il y a eu une manifestation alors beaucoup plus importante. Il devait y avoir à peu près 5000 personnes. Où là déjà, j'ai vu des violences policières sous mes yeux qui m'ont beaucoup heurté. Hein, où j'ai vu un camp de personnes qui étaient venues manifester. Et là, il y avait un préfet avec des CRS qui a fait charger le camp. Mais quand je dis charger, c'est les CRS à coups de crosse dans les pare-brises de bagnole. Moi, je me rappelle une voiture, une AMI 8 à l'époque, avec un couple de parents, apparemment les parents, les enfants derrière, à coups de crosse dans le pare-brise, les gamins étaient complètement terrorisés. Les CRS à coups de couteau, lacéraient des tentes, etc. Enfin, c'était... Et puis, des CRS qui étaient rendus fous, mais c'était pas vraiment leur faute à eux. C'est-à-dire qu'on les laissait, en 76, je vous rappelle, il faisait extrêmement chaud, ils les laissaient dans leur camionnette, en plein soleil, en les abreuvant avec de la bière et du vin, en disant « si vous êtes là, c'est la faute des écolos ». Donc quand vous lâchez des fauves, forcément, ils se comportent comme ça. Bon, évidemment, sur notre exploitation, sur notre ferme, il y avait effectivement une concentration un peu de gens chez nous, parce que d'une part, on avait la place, et puis surtout parce qu'on était complètement impliqués dans le mouvement, quoi. Alors là, on a vu du monde, hein, des gens depuis tous les pays, des Allemands, des Suisses, des Italiens. Alors c'est vrai que ça, tout ça, ça nous a confortés. On se sentait aussi soutenus par d'autres pays, même par des Français, par des tas de gens qui venaient en disant « mais on peut pas laisser faire ça ».
Je suis Paul Michalon, d'une famille de 7 garçons. Né dans les années 50 et marqué par tout un contexte, toute une époque qui a été celle de mon adolescence, qui s'appuie par exemple sur le Larzac, qui s'appuie par exemple sur la floraison d'idées de lutte non violente dans ces années 70 où j'étais jeune, je suis né en 55. Je lis beaucoup de choses, et pas tout seul, puisque je suis dans une mouvance qui est très très anti-nucléaire. Donc il y a des racines à tout ce qui a mené à cette funeste journée du 31 juillet 77. Je suis venu avec un groupe d'amis et celui qui était mon meilleur ami à l'époque, mon frère Vital. Nous y sommes arrivés la veille, avons dormi sous la tente et sous la pluie. C'était assez sinistre. On s'est levé courbattu, un peu humide, mais le cœur léger. Et nous avons rejoint l'immense troupeau, environ 50 000 personnes, qui dans la matinée a gagné par des chemins tortueux le site même. L'idée était de s'approcher le plus possible du site, de s'asseoir devant et de montrer par notre présence non violente que nous étions fermement opposés à un projet fou, qui nous paraissait fou. Je précise que mon frère Vital était à l'époque enseignant de physique et de chimie et que cette foule n'était pas faite que de naïfs, comme on l'a souvent entendu dire. On a cheminé évidemment assez en silence, très résolu, mais c'était quand même un peu lourd de marcher sous cette pluie-là, aussi serré. Par une sorte de tour de passe-passe que je m'explique pas, nous nous sommes trouvés, mon frère Vital et moi, le petit groupe de copains était complètement dispersé, très en vue du cordon des forces de police qui nous barraient la route, assez loin de la centrale qu'on ne voyait même pas. Et nous nous sommes trouvés, Vital et moi, en haut d'un pré, que je visualise très très bien, à très peu de distance du cordon de policiers, on les voyait parfaitement, ils étaient disons à 200 mètres, et tout s'est arrêté là. Assez vite, les tout premiers rangs, qui étaient formés de quelques dizaines de militants actifs, se sont agités, ont lancé des projectiles sur les forces de police, qui ont répliqué assez vite, d'abord par des grenades lacrymogènes, et puis les choses vont se durcir très très vite. Ces quelques dizaines de personnes qui étaient dans le champ du bas étaient surplombées par les milliers d'autres qui, comme nous, eh bien, assistaient à ça, impuissants, interloqués, déçus, agacés et fascinés à la fois. Projectiles rudimentaires d'un côté, quelques cocktails Molotov, pas tellement. J'ai vu surtout des bâtons brandis, des pierres partir. Et puis au-dessus, je me rappelle très bien l'hélicoptère blanc du préfet Jeannin qui cerclait sous la pluie et dans cette espèce de brume et qui surveillait tout et qui transmettait ses consignes eh bien, au ministre de l'Intérieur, à Raymond Barre ou plus haut. Visiblement, l'hélicoptère blanc a donné des consignes et sur le coup de 15 heures, me semble-t-il, les rangées de policiers s'élancent en courant et en tirant en rafale des grenades offensives et des grenades lacrymogènes. Moi, j'étais tout jeune, j'ai été épouvanté de du caractère horrible de ces armes-là. Les grenades lacrymogènes, c'est épouvantable quand on est pris dans un nuage, surtout qu'il faisait humide. Donc tous ces gaz stagnaient au sol. Par temps humide, ça stagne au sol. Quant aux grenades offensives qui tombaient au milieu de nous et tout près de nous, c'est épouvantable aussi. L'effet de souffle et le bruit sont quelque chose d'horrible. Et je me souviens avoir été déplacé par le souffle d'une de ces grenades qui est tombée pas très loin de moi. Les choses sont devenues très dramatiques quand nous avons vu passer devant nous, Vital et moi, nous étions à côté, notamment Michel Grandjean hurlant de douleur, se tenant la jambe avec un pied arraché par une grenade. Je me rappelle aussi, parce que ça s'est passé tout près de nous, de ce jeune Allemand, Manfred Schultz, qui s'est fait arracher lui l'avant-bras par une grenade qu'il a tenté de renvoyer, ce qu'il faut évidemment pas faire du tout. Nous avons vu une échauffourée du côté des policiers, c'était le brigadier Touzeau qui se faisait sauter dans la main la grenade qu'il nous destinait. Il a perdu du temps, il a été distrait quelques secondes et ça lui a lui aussi arraché l'avant-bras. Voir passer ces jeunes amputés avec leurs membres embouillis et hurlants, transportés en hâte vers une ambulance, c'était épouvantable. Donc ça a été un traumatisme terrible et bien sûr, enfin, en ce qui me concerne, le pire restait à venir. colère et la haine montent, ce qui est épouvantable. Hein, beaucoup de gens se sont mis à scander CRS-SS, ce qui est affreux. Voyant cet assaut, fusil à l'horizontale cette fois, je répète, fusil à l'horizontale, eh bien nous sommes partis en courant, tous ceux qui étaient mieux placés et qui étaient derrière nous sont partis avant, et il a fallu, dans la plus grande débandade, traverser des haies escarpées sous la pluie, arrosées de tous côtés de ces grenades de tout type. On s'est précipité, on a piétiné des buissons, on a pataugé dans la boue pour escalader des talus. Je me suis retrouvé derrière la première grande haie, dans un pré en pente, bordé d'une grande forêt, presque tout seul, sentant les explosions derrière qui se rapprochaient. Me retournant après le franchissement de cette haie, ayant marché un petit peu dans le pré, j'ai vu que mon frère ne me suivait pas. J'ai repris ma marche, j'ai rejoint le troupeau débandé, et j'ai appris dans la foule qu'il y avait eu un mort. J'ai retrouvé la bande de mes amis par hasard et par chance aux environs de notre voiture. L'un d'eux m'a confirmé qu'il y avait eu un mort. Il ne se rappelait pas son nom, mais il pensait qu'il s'appelait Viton François. C'était à la fois absurde et terrible, parce que pour retenir cette syllabe « vite », il y avait évidemment de fortes chances pour que ce soit Vital Michalon. J'ai su que le corps de ce mort avait été déposé à la mairie de Morestel. Je crois que c'est Morestel. J'y suis allé en voiture, c'est moi qui conduisais. J'ai failli me faire pulvériser le pare-brise par un CRS en folie, qui à coup de crosse cassait tous les pare-brise des voitures qui roulaient devant nous. On passait au pas, et il tenait son fusil à bout de bras, et il éclatait les pare-brise de toutes les voitures. Devant, c'était une 404. Moi, j'avais une 403. Nous avons circulé sur les petites routes. Des scènes épouvantables que je ne peux pas oublier. Un policier en pleine crise de nerfs qui se roulait au sol et ses copains qui essayaient de raisonner. Des manifestants, je me rappelle d'un, roué de coups au sol à coups de crosse de fusil, qui hurlait. Tout le monde avait perdu la tête. Et je suis arrivé à la mairie de Morestel assez tard, la nuit était tombée. Et là, il y avait une lampe allumée, c'était le bureau du maire. Il m'a accueilli, il m'a dit « Écoutez, qui êtes-vous ? Montrez-moi vos papiers. » J'ai montré mes papiers. Il m'a dit « Bon, je vais vous faire entrer. » Et dans la salle de la mairie... Dans la salle de la mairie, ils avaient rassemblé les tables du conseil. Et il y avait un grand sac en plastique blanc, avec une fermeture éclair. Et le maire m'a dit « Écoutez... vous pouvez ouvrir le sac. » J'ai ouvert ce sac et c'était mon frère. Donc c'était mon frère, il était intact, avec tous ses vêtements, déboutonnés, il avait déjà visiblement été examiné. J'ai refermé le sac et ma vie a changé évidemment, à partir de ce moment-là. Puis je contacte la famille qui a déjà été contactée par une radio. Mes parents ont appris la mort de leur fils par Europe 1.
Enfin, moi j'étais pas à la manif directement. Ben moi j'étais à l'armée à l'époque. Donc je savais que si j'allais à la manif et que je me faisais gauler, là j'étais en tôle. J'étais ici, parce qu'ici c'était le centre de secours numéro 1. C'est-à-dire que c'est ici que devaient arriver les éventuels blessés... Et puis là arrive un fourgon, je ne sais plus, dans l'après-midi. On débarque un brancard, puisque là il y avait donc un interne, ici, un médecin interne. Il se penche sur le brancard, il regarde, et il n'a pas mis longtemps. Il s'est relevé, il est parti en criant, en disant si vous m'amenez un CRS blessé, je l'achève. Il n'a pas pu faire un diagnostic très précis, parce qu'il a bien vu qu'il était mort, mais après on a su exactement pourquoi. Qu'en fait, il avait été tué donc par le souffle d'une grenade offensive, parce que donc Vital Michalon avait fait les écoles d'officiers de réserve, et donc lui, il avait appris que quand vous êtes dans un milieu comme ça où ça pète dans tous les coins avec des grenades offensives, vous ouvrez la bouche pour avoir une pression interne et externe identique pour éviter de vous faire imploser les tympans. Mais il l'a fait, sauf que la grenade, apparemment, elle a claqué devant lui quand il avait la bouche ouverte. Donc le souffle a littéralement implosé les poumons. Il est mort noyé comme ça dans son sang, puis il ne pouvait plus respirer. Il était mort, quoi. Il était... Donc, ça on l'a su après, mais quand vous, 2 heures après, vous entendez sur les radios Vital Michelon mort d'une crise cardiaque, là ça vous rend fou aussi, quoi. Parce que c'était un mensonge. Et là c'est vrai que c'est des choses, vous êtes marqués à vie, quoi, on peut pas oublier. On se sent totalement impuissant, on a envie de prendre un fusil puis d'aller tirer dans le tas, quoi. Puis on se dit, et puis tout se bouscule, on se dit, mais attendez, mais je suis dans quel pays là? La démocratie c'est quoi? Le pays des droits de l'homme c'est quoi? Ça dérape complètement, quoi.
On a porté plainte, qui aboutit bien sûr à un non-lieu. C'était prévisible. Il était hors de question que la responsabilité de l'État soit engagée là-dessus. Nous avons eu en tout et pour tout comme réaction de l'État une lettre de condoléances tout à fait banale du médiateur de la République de l'époque. Point final. Nous avons bien compris que s'opposer à l'aventure nucléaire était quelque chose de dangereux. Nous avons fait circuler une pétition demandant l'interdiction des armes de guerre dans un cas de manifestation. Jamais ça n'a abouti. L'actualité nous donne tristement raison. Et j'ai été très bouleversé par ce qui s'est passé à Sivens, évidemment, l'année dernière, et par cette mort scandaleuse de Rémi Fraisse, à qui il est arrivé en gros la même chose qu'à Vital. Mes frères et moi avons envoyé une lettre de sympathie à la famille de Rémi Fraisse. Dans notre grande famille, notre famille élargie est très nombreuse. Nos enfants, nos neveux et nièces ont été très touchés par tout ça, ont redécouvert leur, disons, leur oncle Vital. Ça a relancé, je crois, une réflexion sur la question de la violence, sur la raison d'État, sur ce que c'est que s'engager. La mort de Rémi Fraisse nous a à la fois beaucoup bouleversés, nous a relancés, nous a peut-être remis en action. Can you blame the sky when a mama leaves the babies behind? Can you blame the sky when a mama leaves the babies behind? Oh.
C'était les histoires de Rémi Fraisse et de Vital Michelon, mort sous les coups des grenades au FF1. Reportage d'Olivier Minot réalisé par Marie Placet, diffusé pour la première fois en 2018. Il faut remercier Véronique, Paul et Florent Michelon, Yves, François, Sylvain, Arnaud Ferrat, Romain et Cécile, ainsi que Milena Elie qui s'est occupée de cette nouvelle écoute. Sachez que depuis cette première diffusion, un non-lieu a été prononcé en 2018, mais un an plus tard, un nouveau délibéré aura lieu le 9 janvier qui arrive sur la responsabilité du gendarme mis en cause dans la mort de Rémi Fraisse. Donc, verdict le 9 janvier. C'est Aurélie Marseille et Sandrine Chaperon qui ont été les attachés de production de cette émission. No, no.